Un mot, une sensation, un son, une scène entière parfois revient. On dit flashback et voilà le passé qui s'invite au présent, mais sans certitude. Un passé recomposé, revisité. Est-il vrai? Qui sait? Pour celui qui le dit, il l'est.
Pascal Paradou.
Revenir au pays de l'enfance, replonger dans sa mémoire enfouie, retrouver les êtres et les lieux, telle est la mécanique des souvenirs, le nouveau roman de Simon Djami, qui raconte le retour de son personnage, Moïse, à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Simon Djami.
Bonjour.
Vous dites roman, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un récit, parce qu'il y a plus que des coïncidences entre le narrateur et vous.
Non, il me semble que c'est un roman. Et j'aurais dû mettre d'ailleurs en introduction toute ressemblance, etc., etc.
Votre personnage est né à Lausanne. Son père est pasteur protestant, sa mère est psychanalyste. Ça vous évoque rien?
Oui, ça me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu, avec lequel nous partageons quelques souvenirs.
Alors, je ne sais pas si vous avez un frère ou une sœur. En tout cas, le personnage en a un.
Oui, moi aussi, par coïncidence,
ça,
il se
alors...
trouve que j'ai un frère et j'ai une sœur.
Alors, sur le roman, il est marqué « roman », mais dans le roman, vous dites « je réinvente mes souvenirs ». C'est ça le propre du roman?
Il me semble que oui, la matière première du roman, c'est la mémoire. Ensuite, qu'elle soit fantasmée, qu'elle soit fictionnalisée, etc., etc., à part les professionnels de la profession, je pense que tout écrivain travaille sur la mémoire.
Seriez-vous proustien? Vous voyez la question, là.
Je ne sais pas si longtemps je me suis levé de bonne heure, mais non, je ne pense pas être proustien, non.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que Proust a une autre manière de travailler la mémoire. Proust vit dans un autre univers. Proust a plein de frustrations que je ne partage pas avec lui. Et donc non, moi c'est plutôt du côté de Yaoundé plutôt que du côté de Guermande.
Alors, c'est un roman à partir de vos souvenirs, très présent, mais ce n'est pas du tout une autobiographie, hein, on est clair. Et ce qui fait votre notoriété, Simon Djami, n'est pas du tout évoqué, parce que vous êtes critique d'art, vous avez dirigé les rencontres de la photo de Bamako, la Biennale de Dakar et bien d'autres événements. Tout cela est passé sous silence.
Ah oui, ça prouve bien que ce n'est pas une autobiographie. Non, il y a certainement des souvenirs, mais il y a aussi beaucoup d'inventions. Parce que c'est l'avantage que nous avons sans doute, les escrocs que nous sommes, qui nous appelons écrivains, c'est de mêler les choses et de rendre tout ça méconnaissable. Même si les gens pensent qu'ils ont des pistes, en fait, on se débrouille pour que les pistes soient fausses ou mènent à des cul-de-sac.
Mais vous avez créé aussi la Revue Noire au début des années 90 à Paris. Ça a été une revue mythique, hein, pendant plus de 10 ans pour mettre en avant l'art contemporain africain. Ça aurait pu trouver sa place dans ce roman, non?
Ça aurait pu, oui, mais j'ai pas l'intention de m'arrêter d'écrire, donc peut-être que ça trouvera sa place à un moment ou à un autre.
En tout cas, dans votre vie, vous avez toujours été plus ou moins, parce que je connais pas le détail et jour par jour votre vie, vous avez été toujours plus ou moins loin du Cameroun.
Oui, j'ai commencé ma vie en étant plutôt loin du Cameroun, et ça a continué. Mais il me semble que je n'ai pas besoin d'être près du Cameroun pour en être près. Il me semble, et je me trompe sans doute, que ceux qui n'ont jamais quitté le Cameroun connaissent le Cameroun un peu moins bien que moi. Il y a besoin de distance, c'est ce que je disais quand je m'occupais d'art plastique ou de cinéma, etc. Il y a besoin de distance pour bien comprendre les choses, sans quoi on fait partie de cette gelée, de cette bouillie, et on ne voit pas forcément très clair.
Est-ce que vous dites « mon pays » à propos du Cameroun? Le possessif, hein, le « mon ».
Bon, je dis ce pays, il m'arrive de dire mon pays, mais chaque fois que je dis mon pays, j'ai l'impression de me raconter une blague.
Pourquoi?
Parce que je ne sais pas comment on peut s'approprier un pays, d'abord. Il me semble que si j'avais un pays, il s'appellerait Paris. Si je dis de la Suisse que c'est mon pays, j'ai l'impression que c'est une blague également. Le pays dans lequel on vit, on grandit, on aime, est le pays qui s'incarne le mieux en nous. Évidemment, ce pays-là est composé d'un tas d'autres pays dont on ne peut pas faire abstraction.
Tu reviendras et tu apprendras à aimer ce pays, dit le père du roman.
J'imagine qu'un pays s'apprend. Je m'amusais avec des camarades qui me disaient « Alors, tu retournes quand au Cameroun ?» Et je leur disais « Mais pour y retourner, il faudrait que j'en sois parti. » Or, je n'en suis jamais parti, donc j'y vais au Cameroun. Je n'y retourne pas. Et donc, tout cela s'apprend. Je veux dire, la neige n'existe pas au Cameroun et j'ai plutôt grandi avec de la neige autour de moi. Donc, il y a tout un tas de mécanismes, il y a tout un tas de réflexes qui sont un petit peu ataviques. C'est-à-dire qu'on reconnaît des choses qu'on sait ne pas avoir vécues.
Mais ce roman, si je ne m'abuse, Simon Djami, la mécanique des souvenirs, c'est une façon de se réapproprier ce pays de façon assez intime et de l'aimer peut-être davantage. Ce n'est pas gagné-gagné au début.
Non, ce n'est pas gagné-gagné. Ce n'est toujours pas gagné. Il y a toujours des choses qui sont plutôt agaçantes dans ce pays. Mais il y a aussi des choses plutôt agaçantes dans le pays où je vis et d'autres dans le pays où je suis né. Donc on doit s'adapter. On doit plutôt regarder le plus petit comme un multiple que le reste.
Cela dit, c'est possible de dire qu'on n'aime pas son pays.
C'est possible, oui.
Quel que soit le pays, d'ailleurs.
Absolument, mais longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas ce pays-là, mais c'était pour des raisons strictement personnelles. C'est-à-dire qu'il y avait une injustice à l'égard du pays, qui, lui, ne m'a rien fait. Et quand je disais que je n'aimais pas ce pays, je parlais plutôt des gens qui le dirigeaient ou qui en ont fait ce qu'il est.
Mais vous l'aimez aujourd'hui ?
Bah, je ne l'ai jamais détesté, je veux dire.
C'est pas ma question, est-ce que vous l'aimez ?
Je ne l'ai jamais détesté. Et je pense que je l'ai toujours aimé malgré moi.
Il vous aura fallu combien de temps pour aimer ce pays ? Parce que le personnage a 40 ans dans le roman, et vous en avez 20 de plus.
Oui, bah je pense que j'étais à cette période-là que j'ai commencé à comprendre, à admettre des choses. Vous savez, à un certain âge, on pense qu'on peut refaire le monde, on pense que les choses peuvent changer, on pense que les choses doivent exister selon notre désir. Et puis, en prenant un peu de bouteille, on s'aperçoit que non, on ne va pas changer les choses. Donc, il faut plutôt trouver quelque chose à quoi on puisse se raccrocher.
Simon Djami, alors vous ne parlez pas beaucoup d'art contemporain, voire pas du tout dans votre roman, mais un peu de musique. Je vous propose donc du blues créole avec le nouvel album du groupe Delgrès. Pour vous, c'est le titre.
Pas ni un long.
Delgrès sur RFI et un roman, celui de Simon Djami, la mécanique des souvenirs ou le retour au pays, au Cameroun, d'un fils qui jusqu'alors avait fait sa vie ailleurs. C'est un livre de deuil, mais aussi de retrouvailles avec le père. Votre père, le père du narrateur, je ne sais pas quoi dire, Simon Djami.
Le père du narrateur, il me semble que le narrateur s'appelle Moïse, donc vous voyez bien que
d'accord.
Ça n'a rien à voir avec moi. Mais voilà, un pays, c'est une mère et un père, il me semble. Et en plus, comme mon père est retourné dans cet endroit et s'y est beaucoup investi, comme son père avant lui. C'est un petit peu la trace de cette famille, c'est le pilier, c'est un petit peu le roc, entre guillemets, ou je faillais dire le rocher, vers lequel on retourne. Je pense que oui, c'est le père du personnage qui incarne ce pays.
Et ce fils et ce père ont une relation quand même assez complexe. Et ils ont eu une histoire compliquée, parce qu'il est donné pour mort à l'enfant. À l'adolescent qu'est Moïse.
Oui, ça contribue sans doute au sentiment de l'adolescent vis-à-vis de ce pays, parce qu'il est donné pour mort, parce que ce pays est censé l'avoir tué. Et donc, sans entrer dans la psychanalyse de bazar, non seulement il est donné pour mort, ensuite le personnage le tue, mais pour des raisons strictement sociales, on va dire. Oui, donc il faut retrouver ce père, il faut, à travers lui, retrouver le pays également. C'est-à-dire que à la fois la victime et le bourreau s'entremêlent dans ce pays.
Sauf qu'il n'est pas mort, il est juste en prison. Mais la mère dit qu'il est mort pour ne pas blesser l'enfant.
Absolument, oui. La mère veut protéger l'enfant parce que l'enfant ne comprendrait pas, même si l'enfant n'est plus si enfant, mais l'absence est une chose assez compliquée. Donc j'imagine que la mère a voulu radicaliser cette enfance pour permettre à l'adolescent de continuer à vivre et de se faire une carapace.
Ce père était impressionnant ? Visiblement, oui.
Le père du narrateur était absolument impressionnant et le grand-père était impressionnant aussi. Ce sont des gens qui ont pris à bras-le-corps, et je pense que ça devait être important pour le narrateur, qui ont pris à bras-le-corps le fait que la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est encore mieux. C'est-à-dire que je suis entouré depuis des siècles de gens qui ont les plus grandes idées du monde, mais qui ne tremperont pas le petit doigt dans quelques complications que ce soit. Donc j'ai toujours eu une méfiance radicale, maladive, à l'égard de ceux qui font de beaux discours et qui derrière ne font rien.
Là, le grand-père, comme le père, s'engage dans la vie politique et prennent des risques.
Ils ont pris des risques, ils s'engagent, ils font plus que s'engager dans la politique, ils s'engagent aussi dans une espèce de Dasein, comme dirait Heidegger. Le grand-père s'engage contre la France, parce que la France s'est appropriée ce pays d'une manière malhonnête, et il va jusqu'à prendre les armes. Et chose qu'on ne sait pas, c'est que la France a largué du napalm au Cameroun. Enfin, il y a une guerre de libération qui est plutôt violente, et dont on ne parle pas. Et le grand-père fut l'un des acteurs de cette guerre de la Révolution. Et évidemment, son fils n'a pas manqué à l'appel quand il s'est agi de défendre le pays. Mais la différence entre le grand-père, par exemple, et le père, différence technique, mais je pense que l'attitude morale est la même, c'est que l'un combat les Français et l'autre combat les Camerounais.
Pour créer ce pays, pour fabriquer ce pays, pour créer son indépendance et faire de ce pays un pays démocratique.
Pour son indépendance, absolument, mais son indépendance, puisque les compagnons de mon grand-père ont perdu, donc l'indépendance technique, le Cameroun n'était pas l'indépendance dont ils ont rêvé. Et donc, le résultat, c'est que ça n'a pas été une démocratie.
Un père impressionnant, donc, avec une bibliothèque qui a l'air extraordinaire. Et le personnage dit que son désir de devenir écrivain est né là. Parce que le personnage est écrivain, hein. J'avais peut-être oublié de le préciser.
Oui, le personnage est un écrivain qui n'écrit plus. Enfin, il écrit des biographies, des choses comme ça.
Mais il se cache derrière les biographies. Parce que c'est plus confortable d'écrire des biographies que d'écrire avec ses propres souvenirs, n'est-ce pas, Simon Djami ?
C'est ce que dit un personnage.
On ne va pas contrarier les personnages, quand
même. Exactement. Hein, les personnages ont leur liberté de parole. Mais c'est vrai que ce personnage qui est tombé dans les livres, parfois voulait changer la fin des livres quand ça ne lui plaisait pas. Et il trouvait que les livres avaient quand même quelque chose de formidable, c'est de vous faire voyager. Enfin, les livres rassemblaient ce que j'appelle les trois hétéros, l'hétérochronie, l'hétérotopie et l'hétérologie. Et donc, vous êtes dans un endroit, vous lisez, vous vous retrouvez au Mexique, en Chine, au Japon, vous vous retrouvez dans des âges perdus, dans des âges qui n'existent pas encore. Enfin, pour moi, pour lequel Dieu est mort, l'écrivain, c'était Dieu.
Il y a votre mère aussi, bien sûr, dans ce roman, qui meurt. Vous ne pouvez pas assister à ses funérailles et vous revenez pour participer aux cérémonies en sa mémoire et pour être aussi proche de votre père. Il vous offre une maison pour les 40 ans du personnage de... Ouais, ouais, je ne sais plus quoi dire, là. de Moïse, donc. Et puis, il vous lègue en héritage des phrases importantes, comme « Un pays ne s'apprend pas, il se vit ».
Oui, donc, pour éviter toute confusion, j'ai assisté, moi, aux funérailles de ma maman, contrairement au personnage Moïse, qui, lui, ne l'a pas fait. Ça dit bien que lui, c'est lui, et moi, c'est moi, comme dirait quelqu'un il n'y a pas si longtemps que cela.
Quelques décennies, quand même.
Oui, le temps, vous savez, c'est une notion assez abstraite. Oui, il y a des choses qui se vivent et qui ne s'apprennent pas. Ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les théoriciens. Il faut vivre les choses, éprouver les choses avec sa chair pour savoir de quoi on parle.
Et votre roman, Simon Djami, oscille donc dans les allers-retours de la mémoire, dans les allers-retours entre Yaoundé et Paris, sans règle chronologique, a priori. Vous pouvez avoir 2 ans, 15 ans ou 40 ans, enfin le personnage, toujours le fameux personnage, au fil des pages. Vous allez à tâtons comme ça dans le passé ou dans les différents passés. Je voudrais que vous nous lisiez un extrait de ce roman, La mécanique des souvenirs.
Les gens qui m'entourent réveillent cette africanité, cet atavisme profond. Je me souviens, il y avait du soleil, les gens riaient et parlaient fort, dans une langue que je ne comprenais pas bien. Ils s'agitaient autour de moi en m'appelant papa, petit papa. Le regard de mon père, le sourire de ma mère. C'était la première fois que je mettais les pieds dans ce pays qui est aussi le mien. J'avais peut-être 2 ans. Ni Sarah ni Isaac n'étaient encore nés. Je n'avais jusqu'alors pour seuls horizons que des champs enneigés et des toits pointus, des feux de cheminée, des Noëls blancs. Je me souviens, je suis revenu, encore et encore, et j'ai su comprendre et parler cette langue bassa à travers les mots et les gestes de mon grand-père. Les visages ont vieilli, mais demeure toujours vivace le souvenir de cette autre vie, de ce baptême, cette initiation intangible. Ce que j'ignore, ma peau, mes pieds, mes yeux le savent. Je ne serai jamais complètement perdu ici. Je connais cette terre rouge, tellement rouge, cette terre du pays de la forêt. Je reconnais ces femmes aux hanches pleines.
Quelques notes de John Coltrane pour vous, Simon Djami. Je crois que c'est un de vos musiciens préférés, hein, que vous évoquez d'ailleurs dans La mécanique des souvenirs.
Oui, j'évoque John Coltrane, mais j'évoque aussi Bach, j'évoque aussi Miles Davis, je crois.
Bob Marley.
Enfin, la musique a une place assez importante dans ma vie et John Coltrane fait partie des monuments, mais mon cimetière musical est assez énorme.
Alors, dans cet extrait, vous évoquez la langue bassa. Vous la parlez ?
Je la parle de moins en moins parce qu'une langue vivante est une langue qui se parle. Et là où je vais, je parle plutôt anglais, espagnol et italien et toutes ces autres langues. Mais je la comprends encore parfaitement. Ça commence à être un peu rouillé quand je dois parler avec des gens qui la maîtrisent totalement.
Mais parler cette langue, est-ce que pour vous c'est remonter le temps ? Est-ce que c'est revenir au village comme ce que fait le narrateur quand il arrive à Issonnier ?
Isonje, qui veut dire la dent de lion. Non, c'est pas tellement voyager dans le temps. C'est, pour ce qui me concerne, la langue maternelle a un sens. Quand je parle bassa, je pense à ma mère, bien que ce soit mon père qui me l'ait enseigné ou mon grand-père. Et donc, pour le personnage de Moïse, j'imagine que ce doit être la même chose. C'est vraiment la parole. La parole, c'est la transmission. La transmission, c'est cette fameuse oralité dont on nous a rebattu les oreilles à tort. Mais c'est dans les mots, comme disait mon camarade Hegel, avec lequel je me suis pourtant beaucoup, beaucoup disputé, c'est dans les mots que nous pensons. Et j'y crois. Et les mots évoquent des choses dans leur essentialité, dans leur intraductibilité, dans leur forme idiomatique, évoquent des choses qui ne peuvent pas évoquer d'autre chose que ce qu'évoquent ces mots-là.
De ce peuple bassa, vous dites avec une grande admiration dans ce roman qu'il n'a produit que des idées et des mots. Et ce n'est pas du tout un reproche, au contraire, c'est il a produit des mots.
Oui, ce n'est pas un reproche. Je me souviens, moi, Simon Djami, quand je cherchais un petit peu les productions plastiques, etc., je me disais, tiens, que se passe-t-il chez Bassa? Et puis j'ai décidé, alors, ai-je tort ou ai-je raison, qu'ils avaient produit des choses beaucoup plus importantes que de simples objets, que de simples artefacts, qu'ils sculptaient la langue, qu'ils continuent à sculpter la langue, et que, encore une fois, les statues meurent aussi, mais la langue demeure dans ses multiples signifiants.
Vous avez parlé de l'oralité il y a quelques secondes en disant on nous en parle trop ou on associe trop l'oralité à l'Afrique, à tort. Pourquoi ?
À tort, parce qu'il me semble que Socrate n'a rien écrit. Platon le fait parler, mais bon, j'étais pas là pour savoir si Platon n'est pas un fictionniste ou un fictionnaliste. Non, parce que ce sont les réductions, les caricatures. Le monde tel que je l'envisage et tel qu'il m'a été enseigné est d'abord fait d'oralité. Il y a comme ça des réductions qui empêche les gens d'être dans un concert plus vaste. Et l'oralité en fait partie. On dit oui, ça, c'est les cultures orales, etc. Comme si Gutenberg, avant lui, tout avait été écrit.
Simon Djami, dans ce roman La mécanique des souvenirs, vous parlez de cette construction, réinvention des souvenirs, de ces allers-retours entre le Cameroun, la Suisse, la France, mais aussi d'autres pays. Vous racontez le village, vous racontez Yaoundé, mais avec parfois un grand sens critique sur le pays lui-même. Vous dites par exemple « Mon pays est une imposture, il est lourd à déplacer ».
Bah, écoutez, il y a un président, par exemple, qui préside depuis plus de 40 ans. Il est lourd à déplacer. Et avant lui, il y avait un autre président. Nous sommes, je crois, en Afrique, le seul pays à avoir eu uniquement deux présidents. Et le second était le premier ministre du premier. Donc, vous imaginez bien que déplacer tout ça, c'est compliqué. Et donc, oui, c'était un pays qui avait un tas de potentiel. C'est un pays qui, quand on regarde ces individualités qui rayonnent un peu partout. Et quand on va dans le pays, il est très vieux, il est très archaïque, mais ce n'est pas dû aux Camerounais, c'est dû à un système. Donc effectivement, on ne peut, en tout cas pour ce qui me concerne, on ne peut que porter un regard critique sur ce pays qui pour moi est un gâchis. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Quand je vois la qualité des Camerounais, leur brillance intellectuelle, physique, morale pour certains, je me dis que tout espoir n'est pas perdu.
Vous racontez, moi ça m'a fait sourire, mais peut-être que vous moins, comment la photo du président est absolument partout au Cameroun, mais c'est la photo du jour de son avènement, c'est-à-dire qu'il avait 50 ans et ça fait plus de 40 ans. Ça vous tire un sourire ou pas ?
Oui, ça me tire des sourires. Effectivement, ils ont, quand on parle de la mécanique des souvenirs, ou du moins la manière dont on manipule le temps, je trouve toujours frappant l'extrême jeunesse des dirigeants africains quand on regarde leur portrait officiel.
Comment vivre et transmettre dans un pays comme le Cameroun, c'est aussi l'une des préoccupations d'une autrice que vous connaissez bien, j'imagine, Emily Boom, et c'était le sujet de l'un de ses romans, Des jours viennent et passent.
Cette question de la transmission des origines et de l'héritage sont au cœur des problématiques et des nœuds qui freinent mon pays aujourd'hui. Cette incapacité de faire lien est aussi dans cette question de la transmission. Alors oui, je l'explore.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse? La transmission familiale, parce qu'il en est question dans ce livre, Les jours viennent et passent, ou de la transmission historique?
Les deux sont liés, c'est toute la problématique de ce livre, Les jours viennent et passent. En fait, c'est l'effondrement d'une famille, quelque part, que je suis pendant 3 générations, qui sont des personnes bien, mais qui, de micro-rupture en rupture plus importante, finissent en fait par se déliter, et génération après génération, à se fragiliser. Et cette fragilité-là va de pair avec la fragilité du pays, finalement. La réalité historique ne peut pas être séparée des réalités intimes et personnelles. Les gens sont aussi le produit de l'histoire.
Simon Djami, vous pensez ce lien aussi entre la famille et le pays, la politique et l'intime?
Je pense que l'intime est au centre de tout. Pour ce qui me concerne, sortons un peu du roman, c'est ma famille qui me relie à ce pays. Et ma famille a assumé des positions historiques. Et donc, quand je pense à mon grand-père, je pense forcément à l'histoire de ce pays. Quand je pense à mon père, je pense forcément à l'histoire de ce pays. Et il se trouve que Hemley est Bassa. Donc, c'est amusant de l'entendre parler de tout cela.
Parce que vous êtes pays, en fait, comme on dit ici.
Ah, nous sommes... pire que pays, enfin je ne sais pas comment on le dit ici. Le peuple Bassa est un peuple assez particulier, donc nous sommes les irréductibles Gaulois, on va dire, pour citer de grands auteurs.
C'est une sœur. Je vous pose cette question parce que dans le roman, vous dites on utilise, on abuse un peu trop du mot frère et il y a une illusion quant à la fraternité africaine.
Non, ce n'est pas une sœur, mais c'est une cousine très proche. Effectivement, je me souviens quand j'étais gamin et que je me baladais, que les gens me disaient « alors mon frère », j'étais très choqué. Je leur disais « je sais exactement qui sont mon frère, je ne sais pas qui tu es, au nom de quoi tu m'appelles mon frère, sous prétexte que nous serions du même continent ». J'aime bien que les mots soient employés à bon escient. Et encore une fois, même si cette illusion de fraternité partait d'un bon sentiment, c'est devenu une caricature. C'est-à-dire qu'à un moment, on oublie le sens des mots à force de les répéter.
Simon Djami, est-ce que les écrivains sont la pointe du combat? Il y a un échange dans le livre entre le père et le narrateur là-dessus.
Je ne sais pas, en tout cas, ils sont la pointe du crayon pour faire ce mauvais jeu de mots dont je suis friand. Ils font partie de cette armée-là. Mais voilà, il y a quand même un problème pour les écrivains, pour les armes qu'ils emploient, c'est qu'ils emploient les mots. Et pour que les mots portent, il faut qu'ils soient lus. Et en ce sens, par exemple, les musiciens sont plus efficaces que les écrivains. Les écrivains font partie de cette armée de gens qui essayent de mettre le doigt là où ça fait mal.
Mais les mots restent quand même.
Les mots restent, oui, mais les paroles s'envolent.
Merci Simon Djami.
Merci à vous.
La mécanique des souvenirs est publiée chez Jean-Claude Lattès. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez bien sûr nous réécouter sur l'appli Pure Radio et sur le site RFI.fr. À très vite.